radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux. Découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application.
Se souvient de tel plan, peut-être c'est comme l'odeur ou le son aussi chez Proust.
La musique a été une des plus grandes passions de ma vie. Je dis « a été », car à présent je n'ai plus guère l'occasion d'en entendre autrement que dans mon souvenir. Elle m'a apporté des joies et des certitudes ineffables, la preuve qu'il existe autre chose que le néant auquel je me suis heurté partout ailleurs. Elle court comme un fil conducteur à travers toute mon œuvre.
C'est un peu plus tard que l'on vit apparaître un élève qui étonnait ses camarades par ses manières pompeuses, ses baise-mains aux dames, son besoin tyrannique d'affection.
Marcel Proust,
lui-même, séduisant et compliqué.
Nous savons quelle place la musique occupe dans la pensée et l'œuvre de Marcel Proust, et la prédilection qu'il a portée à Bach, au quatuor de Beethoven, à Wagner, au ballet russe, à Fauré, à Debussy.
Bonjour et bonne année à tous, à toutes. Nous sommes ensemble en 2022 sur France Culture. Ça, c'est très bon pour une émission. Toujours sur la musique et en musique, libre de toutes les provenances, de tous les styles, de tous les temps, finalement. Une émission qui est à la recherche du temps perdu. Ce soir, c'est jusqu'à 18h sur France Culture. Bienvenue. C'est une grande joie d'entrer ensemble dans cette nouvelle année en consacrant notre série musicale de ce 2 janvier 2022. Vous notez comme c'est musical cette date, justement, à Marcel Proust, cet être, cet écrivain sans équivalent, qui en novembre prochain, le 18 novembre prochain précisément, nous aura quittés depuis 100 ans. D'ici ce 18 novembre 2002, toutes les émissions de France Culture lui auront consacré une émission, se seront penchées sur son cas, le cas Proust. C'est Proust, le podcast, une aventure radiophonique assez inédite, il faut le dire, à laquelle j'apporte aujourd'hui ma petite pierre, en vous racontant Proust, musicien. Alors, il est impossible d'épuiser en une petite heure tout ce que fut la musique pour Proust et tout ce que Proust fut à la musique. Elle a été l'une des plus grandes passions de ma vie, écrit-il. Ceux qui ont lu, relu la recherche le savent très bien. La musique tient dans l'œuvre de l'écrivain une place majeure, une place centrale, on pourrait même dire matricielle, exactement comme elle l'a tenue dans sa vie d'ailleurs, où elle fut à la source à la fois du désir, du souvenir et évidemment de l'amour. On peut même dire qu'elle fut, à travers la fameuse petite phrase de la sonate de Vinteuil, l'un des personnages principaux du cycle proustien. À défaut d'être lui-même musicien, Marcel Proust a été tout le reste. Jusqu'à 18h, portrait de Proust en mélomane, en critique musicale, en muse et, osons le mot peut-être même, en compositeur.
Le pianiste jouait pour eux deux la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour. Il commençait par la tenue des trémolos de violon que pendant quelques mesures on entend seul, occupant tout le premier plan. Puis tout d'un coup, il semblait s'écarter et comme dans ces tableaux de Peter de Hooke, qu'approfondit le cadre étroit d'une porte entr'ouverte, tout au loin, d'une couleur autre, dans le velouté d'une lumière interposée, la petite phrase apparaissait, dansante, pastorale, intercalée, épisodique, appartenant à un autre monde. Elle passait à plis simples et immortels, distribuant ça et là les dons de sa grâce avec le même ineffable sourire. Mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. Dans sa grâce légère, elle avait quelque chose d'accompli, comme le détachement qui succède au regret. Mais peu lui importait, il la considérait moins en elle-même en ce qu'elle pouvait exprimer pour un musicien qui ignorait l'existence et de lui et d'Odette quand il l'avait composée, et pour tous ceux qui l'entendraient dans des siècles, que comme un gage, un souvenir de son amour qui, même pour les Verdurins que pour le petit pianiste, faisait penser à Odette en même temps qu'à lui, les unissait.
La petite phrase de la sonate de Vinteuil, dite ici par Romane Boringer. Alors nous sommes bien obligés de commencer par là, cette petite phrase musicale qui, exactement comme la Madeleine, est l'un des motifs les plus célèbres, les plus déterminants de la recherche du temps perdu. Elle a la même fonction, celle d'activer la mémoire. Elle est surtout le signe du génie de Proust. Car la musique est absolument partout, évidemment, chez Marcel Proust, car comme ses personnages de la recherche, il a grandi dans les salons mondains. Son rapport à la musique est donc à la fois très quotidien et très intime. On a peut-être du mal à se le figurer aujourd'hui. Ce qu'il a le plus entendu, le jeune Marcel Proust, ce qui a le plus formé son oreille finalement, ce sont des petites pièces pour piano à quatre mains, pour violon, violoncelle, des sonates, des trios, des quatuors, des transcriptions de symphonies et d'opéras, des mélodies accompagnées au clavier dans des pièces de musique à l'acoustique très feutrées, souvent assourdies par les rideaux et les tapis, parfois interprétées par de grands interprètes et puis parfois tout simplement par l'aristocratie dans des versions plus ou moins médiocres. Mais c'est cette culture musicale-là d'abord et avant tout qui est en centre de la recherche du temps perdu et de ce cycle incroyable. Marcel Proust y fait de la musique le lieu de cristallisation du sentiment amoureux pour son personnage de Swann. Dans le deuxième livre du cycle, Swann entend une première fois cette fameuse sonate. Il ne parvient pas trop à se souvenir du nom du compositeur, il sait même qu'il ne sait pas le nom du compositeur. Mais en tout cas, cette sonate qu'il entend, le personnage de Swann l'associe immédiatement au sentiment amoureux qu'il est en train de développer pour la demi-mondaine Odette de Crécy. Plus tard, Swann entendra à nouveau cette sonate, comprendra enfin qui en est l'auteur dans le salon de Madame Verdurin, où la sonate devient l'air national de son amour avec Odette. Tout au long du cycle, l'écoute de cette sonate va le renseigner sur l'état de son amour. Il la trouve plus ou moins ravissante, plus ou moins déprimante. Il y trouve toujours en tout cas une constance dans l'émotion qui fait défaut précisément à son amour pour Odette. Il faut s'imaginer que Marcel Proust cite plus de 40 compositeurs dans le cycle de la recherche du temps perdu. Encore plus si on ajoute Jean Santeuil, y compris évidemment des contemporains, des compositeurs que lui-même l'auteur connaît bien. Mais son génie finalement avec cette sonate, c'est d'avoir inventé un compositeur fictif, Vinteuil, et une œuvre, elle aussi fictive, une sonate que le lecteur en fait n'entendra jamais et qu'il est condamné comme Swann à chercher inlassablement. Cette très courte petite phrase de 38 secondes, est-ce qu'elle est vraiment la petite phrase de la sonate de Vinteuil ? D'où vient-elle, cette fameuse petite phrase ? Est-ce qu'elle vient d'une sonate de César Franck ? On entendait la sonate pour piano et violon en introduction. Est-ce qu'elle vient peut-être d'une autre sonate, peut-être de Gabriel Fauré ? Ou est-ce qu'elle est inspirée de cette petite phrase courte, issue, toujours encore une fois, d'une sonate pour piano et violon, cette fois de Camille Saint-Saëns ? En fait, nul ne le saura jamais. Mais ce qui est certain, c'est que comme Swann, l'amour pour le jeune Marcel Proust était très tôt associé à la musique, et ce alors qu'il était encore adolescent. Avant d'entrer de plein pied dans toute la musique qui traverse la recherche, parlons peut-être de celle qu'on ne trouve pas dans la recherche. Parlons de cette absence significative. Elle est liée pourtant à une passion qui a très tôt occupé le jeune Proust et qu'il a très vite associé à l'une des familles musiciennes les plus illustres de son époque. Car adolescent, ans, jeune garçon même, le jeune Marcel Proust étudie au cours Pape Carpentier, un cours où l'on trouve toute la fine fleur de la vie mondaine parisienne, puis au lycée Condorcet, où il va s'éprendre, c'est le mot, on peut le dire, de l'un de ses camarades de classe qui n'est autre que Jacques Bizet. Jacques Bizet, c'est le fils du grand compositeur Georges, illustre, mort prématurément alors que le garçon n'avait que 3 ans. Une amitié si exaltée, c'est le terme qu'on utilise à l'époque, que la mère de Jacques, la veuve Bizet, plus que nous sous le nom de Madame Strauss, puisqu'elle s'est remariée, va carrément interdire aux deux garçons de se revoir. Cette femme va occuper plus tard une place centrale dans la vie de Marcel Proust et dans la vie musicale parisienne. Elle est sans doute l'une des premières à avoir entrevu son homosexualité, et c'est précisément peut-être pour cela qu'elle est absente de la recherche.
Je pourrais dire que Proust ne parle jamais de Bizet, ce qui est très étrange. Sauf une fois où il dit, il parle du côté gosse de la musique de Bizet,
oui,
restant clair. Dans l'enfance. Mais il y a beaucoup à dire sur Proust et Bizet, bien entendu, à cause de Madame Strauss.
Ah oui, alors Madame Strauss, c'était donc Geneviève à Lévis.
Fille de Fromental à Lévis, oui. Qui était le compositeur, auteur de l'opéra La Juive. Et puis c'était la femme de Bizet. Et alors Madame Strauss, puisque après la mort de Bizet, avec qui elle a été mariée 7 ans, je crois, Geneviève à Lévis a épousé un homme fort riche qui s'appelait M. Strauss, qui était sans doute un frère naturel des Rothschild, tout simplement. Eh bien, Mme Strauss a été, dans le fond, peut-être la plus proche amie de Marcel Proust, et elle a servi de modèle à la duchesse de Guermantes pour son esprit, et puis également un petit peu à Odette Swann. D'ailleurs, j'ai remarqué, c'est tout à fait étonnant, c'est presque involontaire, comme si ça avait échappé à Proust, 4 fois, pas moins, dans La recherche du temps perdu, voulant définir l'esprit de la duchesse de Guermantes, Proust écrit le genre d'esprit Meillac et à Lévis, de la duchesse de Guermantes. D'autres fois, il dit l'esprit Mérimée, Meillac et à Lévis. Alors, on ne peut pas mieux désigner...
Oui.
Carmen, enfin.
Toutes les clés de Proust ne sont pas aussi simples.
Oui, oui, mais celle-là est absolument étonnante. On a vraiment l'impression qu'il brûle de dire son secret et qu'il veut désigner la veuve de Bizet quand il parle de la duchesse. Proust, d'ailleurs, a été l'ami et le condisciple à Condorcet de Jacques Bizet, le fils de Bizet, et de Daniel à Lévis, qui est le fils du librettiste.
Thank you.
La complainte de Nadir dans Les Pêcheurs de Perles, l'autre grand opéra de Georges Bizet. Très 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 belle partie de voix pour des hommes, ici interprété par Joseph Calleja ou Calleja, ténor maltais dans la plus pure tradition des ténors français de l'opéra comique, hein, puisque c'est évidemment le genre qui prédomine à l'époque. Bizet qui a été donc un compositeur très marquant finalement de la France et que connaît Proust et qui pourtant ne sera jamais cité dans la recherche par Proust qui peut-être avait peur justement de se trahir. La légèreté sautillante et ravissante de la valse de Ninette. Valse de Ninette sous les doigts de la pianiste Shani Di Luca qui a consacré cet automne un album entier à Marcel Proust. Valse de Ninette, très courte, composée par l'un des plus beaux protagonistes de la belle époque. Le merveilleux Reynaldo Hahn, figure centrale de la vie de Proust et figure centrale aussi de son œuvre, tant celui qui faut, il faut le dire, qui fut son premier amour vécu, a joué un rôle déterminant dans la proximité que Proust va entretenir toute sa vie avec la musique. Parce que lorsqu'il le rencontre en 1894, Reynaldo Hahn, Proust a à peine 20 ans, le compositeur lui aussi, et le jeune écrivain en herbe, très peu connu qu'il est, tombe immédiatement sous le charme de ce jeune pianiste, chanteur, originaire du Venezuela, juif, qui va très vite devenir la coqueluche des salons et des jeunes femmes parisiennes. Quand elle décide de consacrer un album entier à Proust, justement, elle aussi, il y a quelque temps, la cantatrice merveilleuse que nous aimons beaucoup, Cathy Berberian, justement, ouvre son album sur une chanson de Reynaldo Hahn, dont le charme semble toujours opérer près de 20 ans après sa mort.
Proust est toujours à la mode. Ce n'est pas que je ne fais pas snobisme, mais j'aime beaucoup les jeux de mots. Et en cherchant un titre, j'ai trouvé à la recherche de la musique perdue, juste parce que c'est un répertoire qu'on fait très peu ou pas du tout. Et pas seulement parce que c'est passé, mais aussi peut-être parce que c'est kitsch. Et aussi parce que c'est un bon prétexte pour faire des ironies sur les mœurs même de salon et même des chanteurs d'une certaine époque. Hélas, peut-être même aujourd'hui, les mêmes mœurs existent. Mais Proust est présente peut-être dans le fait que je chante pour première une chanson de Reynaldo Hahn. Reynaldo Hahn était un homme, pour moi, de type Renaissance, parce qu'il était critique, journaliste, il était chef d'orchestre formidable, chanteur admirable.
Des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent. J'arrive tout couvert encore de rosée que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds repose. Rêve des chers instants qui la délasseront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête, toute sonore encore.
La voix de Reinaldo Hahn, que Proust surnomme tout simplement l'instrument de musique de génie, c'est comme ça qu'il l'appelle dans sa correspondance. Ils vont vivre tous les deux une histoire d'amour carrément passionnelle, qu'ils vivent plus ou moins ouvertement d'ailleurs selon les moments et les endroits. Ils vont être très très proches et échangent, c'est ça que Proust recherche évidemment, avec Hahn, sur, de manière finalement très très forte, sur ses enthousiasmes musicaux. À la fois, il trouve en Hahn d'une certaine manière un critique, un interlocuteur, mais aussi quelqu'un avec qui développer une approche pas forcément rationnelle, mais plus émotionnelle de la musique. Les deux jeunes hommes, finalement, finissent par se faire une place dans le monde. Et ils, finalement, s'éloignent, mais leur grand lien, leur grand amour se mue en une amitié qui restera très solide, très très forte, jusqu'à la mort de Proust en 1922. Le lien avec Hahn, il est crucial, en fait, dans le rapport de Proust à la musique, puisqu'il va permettre, finalement, de la vivre de très très près. Comme le raconte Henri Busser, il était compositeur, il a été plein de choses, notamment le directeur du Conservatoire National de Musique, mais il a surtout été chef d'orchestre. C'est lui qui a dirigé la création à l'Opéra Comique de Péléas et Mélisande de Claude Debussy. Il se souvient de ce jeune couple d'amis dans cette archive assez précieuse.
Reinaldo ne manquait jamais une répétition au piano ou à l'orchestre. À ce moment-là, il était toujours accompagné d'un grand beau garçon, de très beau physique, avec des yeux admirables, qui n'était autre que le futur Marcel Proust, le littérateur qui était peu connu. Il avait fait un livre qui s'appelait Les jours, les plaisirs et les jours, qui a été publié avec une préface d'Anatole France, des illustrations de Madeleine Lemaire et 4 ou 5 pages inédites de Reinaldo. Reinaldo n'avait pas pour Marcel Proust une très grande considération au point de vue littéraire, car il m'a dit « c'est un garçon qui s'amuse à faire de la littérature ». Mais Marcel Proust était charmant et il a été tout de suite un compagnon admirable. À ce moment-là, on voulait de donner Péléas. Marcel Proust admirait énormément Debussy et surtout la facture de cet ouvrage qui lui paraissait tellement nouvelle, tellement sensible. Il était vraiment enthousiaste. Alors que Reinaldo faisait toutes sortes de réserves et trouvait que Debussy, tenez-vous bien, manquait de lyrisme. C'est tout de même un peu fort. Et je dois dire que les relations avec Marcel Proust ont eu quelque chose d'un peu singulier et qui paraîtra surprenant aux auditeurs. Marcel Proust était épris d'une jeune chanteuse, une jeune choriste, j'étais en effet chef des chœurs, qui s'appelait de son nom Reine. Et Marcel Proust faisait une cour discrète, l'emmenait prendre le thé chez le pâtissier de la rue Favart, et il m'écrivait journellement des billets ainsi conçus. « Cher Busser, renvoyez-moi Rose, renvoyez-moi Reine à 4 heures. » chez le pâtissier, et si vous pouvez, venez avec elle et avec Reinaldo prendre le thé. Et il m'est arrivé bien des fois, non seulement d'aller chez le pâtissier, avec Reinaldo et Marcel, mais d'aller au bois de Boulogne prendre le thé, avec Marcel, Reine et Reinaldo. Et un jour, cette Reine m'a fait des confidences, elle m'a dit, « Oh, Marcel Proust est charmant avec moi, très réservé, il m'accompagne en voiture, il m'envoie des bonbons, des fleurs, mais il se contente de me baiser les mains. » Elle était un peu surprise, car je dois vous dire qu'elle n'était guère farouche.
Je n'aime, je n'admire, je n'adore pas seulement votre musique, j'en ai été, j'en suis encore amoureux, écrit le jeune Marcel Proust à Gabriel Fauré, on est en 1897, et il ajoute « Je connais votre œuvre à en écrire un volume de 300 pages dessus ». Alors certes, À la recherche du temps perdu n'est pas un livre sur Fauré vraiment à proprement parler, mais le compositeur français y joue une place plus qu'importante. Il y a sans doute, et on en est même quasiment certain, du Fauré dans Vinteuil, et donc de la sonate de Fauré, comme on en a entendu ici, dans la sonate de Vinteuil. C'est une des pistes encore que l'on a. Pourquoi ? Parce que Fauré fut, avec Renel Dohan justement, le mentor, le phare de la jeunesse de l'écrivain, qui a puisé dans sa conversation avec le maître. Il a souvent vu Fauré, il lui a beaucoup écrit, il organisait des concerts en son honneur. L'écoute répétée de ses partitions dans la plupart des salons où Proust va, tout cela a nourri beaucoup la connaissance musicale et la réflexion artistique de Proust. Pourquoi aussi ? Parce que Fauré, qui est plus âgé évidemment que Proust, a à cœur de faire entrer la musique française dans la modernité. Et la passion que lui voue Proust, en tout cas au début de sa vie, est très emblématique de la manière dont sa culture musicale s'est construite.
Proust n'a pas aimé toute la musique. Il ne pouvait pas l'aimer de cette manière-là pour des raisons qui se rapportent à son époque. Il a les goûts de son époque. Secondement, il a aussi les goûts de sa sensibilité propre. Si bien que on s'aperçoit, il a beau citer quelquefois Mozart ou Bach, que toute la musique classique, au fond, lui a échappé. Elle ne correspond pas à sa manière de sentir les choses. Alors, on ne rencontre chez lui ni Bach, ni Haydn, ni Mozart, ni Brahms, pour une autre raison, c'est que Brahms, en France, n'était pas encore connu à ce moment-là. Et sa sensibilité musicale s'éveille avec la musique romantique, avec Beethoven, et va jusqu'à la musique de son époque. Il a beaucoup aimé Franck, beaucoup aimé Fauré, et beaucoup aimé Debussy.
Il a beaucoup aimé Debussy, nous avons entendu évidemment Au bord de l'eau de Gabriel Fauré chanté par la voix délicieuse de Nathalie Dessay et la sonate de Debussy. Debussy, c'est la rencontre ratée, c'est l'amour tardif, c'est la passion contrariée peut-être de Marcel Proust. On ne sait pas vraiment en fait ce que Proust pense de Debussy avant de découvrir son fameux opéra Péléas et Mélisande, qui a été donc créé par notre ami Henri Bussard, qu'on entendait tout à l'heure, en 1911. Ce qui est certain, à peu près, c'est qu'il a forcément croisé le compositeur dans la plupart des salons de ses amis. Il a peut-être entendu plusieurs sonates, mais en tout cas, il en parle peu dans sa correspondance avec Anne. On sait qu'il a tenté, Proust, en tout cas, qu'il a cherché à entrer en relation, à nouer un lien peut-être plus précis, plus fort avec Debussy. Un soir, d'ailleurs, il rentre d'une même soirée dans un salon et Marcel le raccompagne chez lui en voiture. Il propose d'organiser une réunion en son honneur et lui dit finalement tout le bien qu'il pense de sa musique. Ce à quoi Debussy répond « Je suis un ours, le mieux serait qu'on se voit au café, ne le prenez pas mal ». En gros, les deux hommes ont beaucoup de mal à communiquer. Debussy le trouvait, je cite, « longuet et un peu historicisant ». Proust le trouve sans doute un peu rustre. Toujours est-il qu'il est absolument fasciné par Péléas et Mélisande, Marcel Proust. Quand il le découvre, il écrit à Reynaldo Hahn « C'est une charmante révélation qui me tyrannise un peu », dans le sens où fatalement, il y pense et il y pense sans cesse. Il s'étonne dans sa correspondance que Debussy, je cite, ait pu faire ça. Je m'en étonne comme Goncourt s'était étonné que le gros Flaubert ait pu faire une scène si délicate dans l'éducation sentimentale. L'opéra le subjugue et c'est pour l'entendre d'ailleurs que quand il sera un peu plus âgé et de plus en plus diminué par l'asthme, il se fera installer une invention technologique qu'on a oubliée mais qui fut révolutionnaire en son temps. Le théâtrophone, ancêtre de la radio qui permettait de capter le son sur des scènes d'opéra et de théâtre de manière très rudimentaire, avec deux micros de chaque côté de la scène et qui permet à Marcel Proust de plus en plus insomniaque et de plus en plus étouffé, d'entendre les représentations en direct comme s'en souvient un poète qui était alors tout jeune et qui venait le voir dans ses appartements, c'est Jean Cocteau.
Proust possédait le théâtrophone. C'est un appareil qui doit être incompréhensible aujourd'hui. C'était une radio avant la lettre, une sorte de monstre, de pieuvre formé de tuyaux acoustiques, et on y entendait l'opéra et l'opéra comique. Il écoutait souvent Péléas. Et un jour, il me dit, j'ai eu une grosse crise hier parce que j'ai écouté Péléas. J'ai eu cette crise au moment où le vent du printemps passe. Il me disait, je vais essayer de vous imiter sa voix. Mon cher Jean, j'ai une grosse crise au moment où le vent du printemps passe sur la mer. Il parlait, comme je viens de vous l'imiter, en barbouillant de sa main sa voix sur son visage et dans sa barbe.
Je les tiens dans les mains, je les tiens dans la bouche, je les tiens dans les bras, je les ai autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit.
Laisse-moi, tu vas me faire tomber.
Non, je n'ai jamais vu de cheveux comme les tiens.
Mm-hmm. chacun dans la porte. Tu vois, je puis ouvrir les mains. J'ai les mains libres et tu ne peux plus m'abandonner.
Je les tiens, extrait du troisième acte de Péléas et Mélisande, donc opéra composé par Claude Debussy avec les textes très novateurs à l'époque de Maeterlinck, qui va bouleverser Proust, Proust mélomane, donc Proust auditeur, mais dont Proust écrivain va se servir comme il se sert souvent dans la recherche de la musique qu'il écoute, qu'il commente, qu'il émeut évidemment dans la vie. Il présente en fait Péléas et Mélisande dans la recherche comme un étalon du snobisme. C'est en ça aussi que Proust est aussi un critique musical. Dans Sodome et Gomorre, par exemple, il montre comment Madame de Cambremer se dit folle de Péléas et Mélisande, comme pour faire gage finalement de son bon goût, de sa capacité à accepter la modernité. Pourtant, Proust se fiche aussi un peu d'elle, puisque quand elle demande au violoniste Morel de jouer les fêtes de Debussy dans son salon, Morel n'est pas capable de le jouer, elle ne reconnaît pas qu'il ne s'agit pas de Debussy. Morel s'aperçut, je cite, qu'il ne savait pas que les premières mesures, et par gaminerie, sans aucune intention de mystifier, Morel commença à jouer une marche de Meyerbeer. Malheureusement, comme il laissa peu de transition et ne fit pas d'annonce, tout le monde crut que c'était encore Debussy et continua à crier « Mais c'est sublime !» Morel, en révélant que l'auteur n'était pas celui de Péléas, mais de Robert le Diable, jeta un certain froid. Et puis plus tard, toujours dans Sodome et Gomorre, un autre personnage, un cousin des Cambremer cette fois-ci, va désinguer l'opéra sans complexe. Nous sommes allés à l'Opéra Comique une fois, mais le spectacle n'est pas fameux. Ça s'appelle Péléas et Mélisandre, et c'est insignifiant. C'est ainsi effectivement que ce cousin apparaît dans l'œuvre de Proust comme finalement imperméable à la modernité. L'œuvre de Proust en fait est traversée par le regard des personnages du cycle à qui il confie parfois ses enthousiasmes, ses propres débats critiques sur la musique et puis ses réflexions sur l'art. Si Péléas et Mélisande a été un choc pour Marcel Proust et permet à Debussy d'être un compositeur qui apparaît beaucoup dans la recherche, 13 fois, disent les études, eh bien, il y a quelqu'un qui est loin, loin, loin devant. Le compositeur de loin le plus cité, le plus aimé, le plus important sans doute dans la vie de Marcel Proust, c'est Richard Wagner. Proust doit tant à Wagner. Parsifal fait partie des œuvres les plus importantes dans la vie de l'écrivain. Il y a beaucoup de motifs finalement qui reviennent dans la recherche, qui sont des images ou des références plus ou moins directes, plus ou moins assumées aux différents motifs qui ponctuent l'opéra de Wagner. Les filles fleurs du livret de Parsifal ont sans doute nourri le titre « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Le cygne de Parsifal indubitablement a contribué à baptiser Swann, Swann. Mais c'est peut-être ce que nous écoutons maintenant. Tristan et Iseut, autre opéra qui est omniprésent dans la recherche. Il entretient, cet opéra, un lien très intime avec qui ? Avec notre fameuse sonate de Vinceuil. L'un des seuls indices que nous donne Proust sur cette sonate, c'est finalement quel rappel Tristan. C'est le seul indice qu'on a pour comprendre à quoi cette œuvre pourrait ressembler dans la réalité. Bien que Vinteuil fût là en train d'exprimer un rêve qui fut tout à fait étranger à Wagner, je ne peux m'empêcher de murmurer « Tristan », avec le sourire qu'a l'ami d'une famille retrouvant quelque chose de l'aïeul dans une intonation, dans un geste du petit-fils qui ne l'a pas connu. Le Liebestod de Tristan et Isolde dans une version orchestrale magnifique. Là va commencer 6 minutes d'une montée inatteignable qui, comme un orgasme, finalement met l'auditeur en attente. Wagner que Proust a longtemps beaucoup considéré comme un frère de création. Il en parle énormément dans La Recherche et il voit dans Wagner finalement un frère dans l'ambition créatrice qui fut la sienne, qui fut la leur. Il évoque l'admiration qu'il porte à Wagner dans ce passage qu'il confie au narrateur. L'autre magicien, celui qui me ravissait en ce moment, Wagner, tirant de ses tiroirs un morceau délicieux pour le faire entrer comme thème, rétrospectivement nécessaire dans une œuvre à laquelle il ne songeait pas au moment où il l'avait composée, puis ayant composé un premier opéra mythologique, puis un second, puis d'autres encore, et s'apercevant tout à coup qu'il venait de faire une tétralogie, dû éprouver un peu la même ivresse que Balzac, quand celui-ci, jetant sur ses ouvrages le regard à la fois d'un étranger et d'un père, s'avisa brusquement, en projetant sur eux une illumination rétrospective, qu'il serait plus beau réuni en un seul cycle, où les mêmes personnages reviendraient, et ajouta à son œuvre en ce raccord un coup de pinceau, le dernier, le plus sublime, unité ultérieure et non factice. En fait, ce que Proust aime beaucoup dans Wagner et la manière qu'il a de créer, c'est comment finalement la tétralogie est née d'une ambition au départ beaucoup plus modeste. C'est la manière dont Wagner invente, et c'est évidemment l'une des plus grandes contributions du compositeur, la technique du motif pour dire, redire la présence de ces personnages, de ces thématiques. Et on sait qu'en ça, Proust se sent très proche de lui, puisque La Recherche est née, il faut s'en rappeler, d'un projet non pas de roman, mais de critique littéraire, le Contre Sainte-Beuve, où l'on trouvait déjà les prémices finalement de tout ce qu'est La Recherche, puisqu'on trouvait déjà dans Contre Sainte-Beuve l'épisode de la Madeleine, immédiatement suivi par celui d'une idée de souvenir. Donc, il y a chez Proust l'enthousiasme pour Wagner d'une œuvre vaste qui va se construire pas à pas, qui porte les prémices de ce qu'elle deviendra, d'une œuvre qui porte aussi les traces, les stigmates du temps qu'elle a coûté à rédiger. Wagner a réinventé la musique grâce finalement à ses motifs et Proust lui aussi va émailler son grand œuvre de motifs. L'un de ses motifs, c'est la sonate, d'où l'hommage direct à Tristan d'ailleurs. Et puis voilà, donc ça c'est effectivement la grande présence de Wagner. On peut même peut-être se dire que Proust, inspiré par Wagner, a composé La Recherche un peu comme le compositeur avait composé un opéra. Donc Wagner comme muse de Proust compositeur. Partons peut-être pour terminer sur Proust muse lui-même, puisqu'il y a Proust muse, très difficile à dire. Il y a toute une foule de compositeurs qui aujourd'hui estiment que Proust a été une influence dans la manière dont eux-mêmes considèrent leur art, le rapport au temps, le rapport à la création. Les références à Proust sont très nombreuses. Ici, le compositeur de musique de film Gabriel Yared cite, ou en tout cas fait allusion à Proust dans la bande originale du film Le talentueux Monsieur Ripley, pour évoquer les souvenirs de plus en plus brouillés du personnage qui ne sait plus vraiment qui il est. Il est un grand jazzman qui évoque souvent Marcel Proust comme une influence directe de sa manière de composer.
C'est une œuvre magnifique qui... Je conseille cette œuvre parce que, tout simplement, moi, elle me permet d'avoir un autre regard sur la vie. Les descriptions de Marcel Proust, soit de la nature, soit de la campagne, font que quand je revois des morceaux de ville, des morceaux de campagne, je les vois différemment. Après, le rapport à l'humain, à ce que l'on est aussi, la vision de Proust m'aide à prendre du recul. C'est-à-dire, en termes concrets, il y a des choses que je peux penser ou vivre, que je peux... Parfois, je prends de la distance par rapport à ces choses. Il y a aussi tout le rapport à la musique et comme on perçoit la musique dans le temps, pourquoi on aime plus une musique après l'avoir écoutée pas mal de fois, etc., etc. Ça, c'est énorme, c'est une mise en abîme. Et je pense que, en plus, on est dans une période où il faut prendre de la distance par rapport à soi-même.
Le merveilleux trompettiste Éric Truffaz, grand lecteur, relecteur de Proust, qui régulièrement d'ailleurs introduit des hommages dans ses albums à Proust, en l'occurrence là, on écoute Revolution of Time, extrait de la bande originale du film El Tiempo de la Revolución. On notera que certains des disques d'Éric Truffaz comportent des hommages parfois très directs à Proust. Peut-être quittons-nous sur l'idée finalement de la musique que défend Proust, car il est évidemment un morceau qu'on osera passer dans la série musicale sur France Culture, celui qui peut-être a rendu populaire au-delà des amateurs de littérature le nom de Swann. C'est une chanson de Dave que vous avez probablement entendue déjà, et nous allons la passer. Pourquoi ? Eh bien parce que Georges Pirouet nous dit bien que Marcel Proust avait peu de difficultés avec la musique dite légère.
Toutes les musiques chez Proust au fond se valent, qu'il n'a pas une idée des différentes qualités de la musique. Ce qui importe pour lui, c'est que la musique lui ait apporté quelque chose et y provoqué une émotion chez lui. Alors ça peut être aussi bien la grande musique que la petite musique légère. Et ici, on en a un exemple merveilleux aussi dans le fameux passage du Sole Mio. Je résume la situation. Nous sommes à Venise. Le narrateur et sa mère sont à Venise. Et la mère va le quitter. Le narrateur hésite à partir avec elle. Et pour se décider, il ne peut pas se décider. Et ce qui l'empêche de se décider, c'est d'entendre le Sole Mio et c'est de le suivre par l'oreille. Vous voyez là quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que la musique n'est plus seulement une source d'émotion, mais c'est une source d'action. Elle agit sur la volonté du personnage. Et à un moment vraiment grave pour le narrateur, puisque c'est la séparation d'avec sa mère, c'est le déchirement de la mère et du fils.
On oublie hier loin, si loin d'aujourd'hui, mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann. chaîne et se laisse t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin.
Et oui, c'est sur la voix de Dave que nous nous quittons. Merci à Pascaline Bonnet qui a préparé cette émission. Merci à Stéphanie Valois qui en est l'attachée de production cette semaine dans un contexte, ma foi, très nouvel an. Cette émission a été réalisée par Olivier Guérin et c'est la prise de son est assurée par Vincent, le grand Vincent. Abonnez-vous au podcast de la série musicale, mais aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Proust le podcast, donc un podcast coordonné par Charles Dantzig à retrouver sur le site de France Culture qui vous offre un portrait du grand Marcel par la littérature, les sciences, l'économie et donc la musique. C'était aujourd'hui. Merci, bonne année à tous et à la semaine prochaine.
Vous aimez ce podcast ? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.